allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. En ce 8 mars 2023, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous vous avons bien évidemment dégoté un sujet foufoune. Je vous entends déjà, oui, tous les ans c'est la même chose, on est censé parler de la lutte pour les droits des femmes et on nous ressort les mêmes dessins d'utérus, de clitoris, les mêmes débats sur les jours de congé pour règles douloureuses, comme si nos identités, nos questionnements de femmes, nos prises de conscience et nos manières de nous saisir du monde pour faire de la politique ne parvenaient finalement pas à s'extirper du froufrou de nos culottes et de notre mythique nature féminine. Donc non, vraiment non, nous n'étions pas partis pour parler de foufoune une telle journée, et puis nous sommes tombés sur une étude qui commençait par ce simple constat. Il existe relativement peu d'études sur l'impact des produits menstruels sur la santé des femmes. Il existe donc des études sur l'impact du café que je bois le matin, il existe des études sur ma sédentarité au travail, sur l'impact des vapoteuses à la pastèque, sur l'impact du temps passé sur l'application TikTok ou sur les fientes de pigeons en ville, certains comprendront pourquoi je nomme ça, mais il n'existe pas ou peu d'études sur l'impact que les protections hygiéniques ont sur la santé des femmes. Côté conso, chaque année, les Françaises, à elles seules, utilisent plus de 5 milliards de protections hygiéniques, tampons et serviettes en tête. Côté histoire, le phénomène n'est pas tout neuf non plus, puisque l'utilisation des tout premiers tampons remonterait à l'Égypte antique, à base de papyrus ramolli, s'il vous plaît. Et a priori, les femmes n'ont pas cessé d'avoir leurs règles depuis. Donc en fait, ce constat rappelle à lui seul à quel point, même en 2023, parler de foufoune dans une société patriarcale revient encore à parler de politique. Alors notre invité aujourd'hui n'est pas politologue, ni sociologue, ni spécialiste du droit des femmes. Il est expert en virologie au laboratoire MIVEGEC, donc maladies infectieuses et vecteurs, écologie génétique, évolution et contrôle. Il a participé à cette étude comparative entre le profil immunitaire et le microbiote vaginal d'utilisatrices de tampons et de coupes menstruelles. Cette étude a été publiée dans la revue Moléculaire Écologie. Ignacio Bravo, bonjour, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci à vous d'être avec nous. À l'inverse d'un tampax, elle ne bloque pas le flux mais le libère. Olouez avec moi pour mener cette interview, la super nana Aline Perio. Je pense que c'est mon meilleur lancement.
C'est le meilleur, je vais le garder. Bonjour tout le monde.
En seconde partie d'émission, c'est Aline d'ailleurs qui vous emmènera au laboratoire BioWeb, merci, j'arrivais pas à le dire, pour biomasse, bois, énergie, bioproduits en compagnie de François Pinta et Kevin Candelier. Enfin, Agnès Pesanti, responsable du service culture scientifique de l'Université de Montpellier, viendra nous parler de la semaine du cerveau, puisque le prochain Bar des sciences est partenaire de cet événement avec une discussion sur le thème de l'éducation et du bien-être, ou plutôt du bien-être dans l'éducation. Le prochain Bar des sciences, c'est le 16 mars prochain à la brasserie Le Dôme, on y revient. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, Ignacio Bravo, on vient de le dire, donc dans ce lancement, votre communiqué de presse nous a interpellés, puisque donc vous faites ce constat qu'il existe relativement peu d'études sur l'impact des sur l'impact des produits menstruels sur la santé des femmes. Est-ce que vous savez l'expliquer ça? Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu d'études? C'est encore un tabou en fait, la question notamment des règles féminines.
Bon, les règles féminines sont un tabou, ça c'est un fait, ça, je crois que ça c'est un constat. Mais la question c'est qu'on connaît très peu, on s'occupe très peu des moments des règles. Et même si on a eu par exemple plein de recherches autour de la possible toxicité des tampons, les syndromes des chocs toxiques, ce sont des constats qui sont apparus a posteriori. Il y a eu des avancées et des développements comme par exemple l'introduction de la coupe menstruelle comme un produit disponible, mais ça a été fait, comme dans plein d'autres domaines, avec très peu d'études préalables. Ça veut dire qu'on a offert, en tant que le marché a offert aux femmes une nouvelle forme de traiter et de contrôler ces règles avec très peu d'études des toxicités ou des possibles effets secondaires qu'elle pourrait impliquer.
Alors justement, dans votre étude, dans la livre, vous avez choisi de comparer donc, la coupe menstruelle et les tampons. Pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a pas de point sur les serviettes hygiéniques? Est-ce que vous avez regardé ça ou pas du tout?
Oui, non, on l'a regardé, mais ça vient de la composition même de la cohorte du groupe de femmes qui ont participé à l'étude. C'est un groupe de femmes autour de 150 femmes, entre 18 et 25 ans. Et nous avons demandé à chaque femme, pendant une période très longue, autour de 200 des suivis, et pour chaque période, s'ils avaient utilisé des tampons, des serviettes ou des coupes menstruelles. À notre surprise, il y a eu un pourcentage très élevé de femmes qui utilisent régulièrement des coupes menstruelles.
C'est combien ce pourcentage élevé?
C'est autour entre 20 et 25 %. Et nous avons introduit des catégories. On a classifié les femmes coupes menstruelles ou tampons. Mais ça ne veut pas dire que les femmes qui sont dans les coupes menstruelles, utilisent toujours et seulement les coupes menstruelles. Et c'est la même chose pour les tampons. On a par exemple constaté, on a découvert qu'il y a c'est très en damier. Il y a des femmes qui utilisent des coupes menstruelles, utilisent aussi des tampons et des vice-versa. Et les groupes que nous avons structurés sont pour les femmes qui utilisent davantage des coupes menstruelles ou davantage des tampons. Mais on a trouvé très peu de femmes qui utilisent que le sein ou les autres. Et à notre surprise aussi, on a observé qu'il y a très peu de femmes qui utilisent davantage que les protections hygiéniques, que les serviettes. Comme protection hygiénique. Et donc, on avait autour d'une vingtaine, disons, ou en total autour d'une vingtaine de femmes qui utilisaient tous les trois options. Mais donc, dans l'étude, nous avons structuré notre population entre les femmes qui utilisaient davantage, et donc c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusif, et ça, c'est une des. Il faut donc lire tous les résultats. Avec cette précaution de dire les groupes ne sont pas exclusifs.
Mais malgré cette précaution, vous avez 22% d'utilisatrices majoritaires de coupes et 70% d'utilisatrices majoritaires de tampons. C'est-à-dire que vous arrivez à comparer deux groupes qui sont si différents en termes d'échantillons. Comment est-ce que vous procédez?
Oui, ça s'est fait. Pour ça, les statistiques viennent à notre secours. On peut comparer des groupes qui sont, même s'ils sont, on va dire, différemment peuplés. Et de la même façon, par exemple, qu'on peut faire des statistiques et comparer la France et le Luxembourg, même si on parle des 2 millions et des 70 millions d'habitants. Mais ça, c'est une des faiblesses de l'étude, c'est cette disparité entre la taille de groupes de femmes qui utilisent les tampons et qui utilisent les coupes menstruelles. Mais ça, en épidémiologie, notre étude, c'est une étude de dire « Ah mais tiens, il faut qu'on regarde ça ». Et on ne peut pas porter des certitudes, mais c'est plutôt un constat de dire « Nous sommes en train on a commencé à gratter ». Et probablement, il faudra donc continuer à gratter. Et notre étude ne prétend pas, on n'a pas la prétention
d'une représentation.
De conclusion ferme. Mais c'est de dire, tiens, il faut qu'on regarde ça en profondeur.
Alors, vous avez parlé un peu de la cohorte. Donc, pour mener cette étude, vous avez profité d'une autre cohorte qui a été réunie, ou en tout cas composée dans le cadre de l'étude clinique PAPCLEAR, initiée par le CHU de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette étude?
L'étude PAPCLEAR, ça a été démarrée par Samuel Alisson, qui est chercheur CNRS au Collège de France.
Qu'on a reçu ici quelques temps.
Et l'étude visait à étudier, à comprendre les premières expositions des femmes au papillomavirus. On sait beaucoup des papillomavirus, comment ils causent des cancers des cols de l'utérus dans des femmes autour de 40-50 ans, mais on sait très peu de qu'est-ce qui se passe dans les premières interactions du virus avec notre corps, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. On n'a pas pu, malheureusement, aller étudier ce qui est vraiment intéressant, que c'est les premières interactions dans les débuts sexuels, les premières expériences sexuelles avec pénétration, parce qu'il y a un tabou très fort dans la société pour étudier les filles ou les garçons autour de leur 15 ans, qui est la médiane d'initiation à l'activité sexuelle. Et donc, on a dû se concentrer entre le 18 et les 25 ans, qui constituent notre cohorte. Ça veut dire que nous voulions comprendre comment cette première interaction des papillomavirus avec le corps humain s'établit, pourquoi certains humains, hommes et femmes, arrivent à guérir cette infection, alors que chez d'autres, femmes, à leurs 40 ans, sont encore infectées et sont en risque accru de développer un cancer de col de l'utérus.
Et comment elle est venue alors cette idée, donc, finalement, d'utiliser cette cohorte pour travailler sur les protections hygiéniques?
Bon, les premières, parce que par le constat de la manque complète, pour presque complète, d'études sur ces sujets. Et cette surprise, c'est de dire comment ça s'est fait qu'on puisse offrir. Donc, il y a une proportion de femmes très significative qui utilisent des protections, comme protection la coupe menstruelle et qu'on ne sache pas et si ça modifie ou non l'environnement du vagin. Parce que nous savons que l'environnement du vagin, donc c'est-à-dire la microbiote vaginale qui habite dans l'ensemble des bactéries, virus et champignons qui habitent dans le vagin, ça conditionne énormément la santé sexuelle et reproductive de la femme. Plus la microbiote vaginale est saine, moins il y a d'infections. Et nous savons aussi qu'il y a des microbiotes vaginales qui empêche le succès des fécondations, par exemple de la fécondation in vitro. Et l'idée, c'était de voir comment que ces changements de l'environnement vaginal, qui est introduit par la présence de la coupe menstruelle, peut modifier la microbiote vaginale.
Et ce fameux microbiote vaginal, donc, a plein d'implications, comme vous venez de le dire. Au-delà des protections hygiéniques, est-ce qu'on sait un peu mieux ce qui détermine sa composition?
La microbiote vaginale est très particulière. Est très différent des autres microbiotes du corps. La microbiote, par exemple, dans les intestins, plus elle est diverse, plus elle est riche en bactéries, mieux elle est. Alors que pour la microbiote vaginale, elle est très particulière parce que moins il y a de bactéries, moins il y a des diversités, plus mieux elle se porte. Et quand on a une microbiote vaginale saine avec des lactobacilles, et cette microbiote vaginale peut empêcher que des champignons qui sont nuisibles, qui sont parasites, ou que des bactéries qui sont nuisibles et qui sont parasites, s'établissent et colonisent la microbiote vaginale. Nous ne savons pas exactement comment les bactéries colonisent le vagin. Ça, à nouveau, vient dans ces points noirs dans notre connaissance, qui est la ménarchie et les débuts de la vie sexuelle des filles. Donc, cette première règle, autour des 13 ans en France, et la première relation sexuelle avec pénétration, autour des 15 ans en France, pour la médiane. Mais donc, des grands trous noirs dans notre connaissance sur la santé sexuelle et reproductive de la femme sont cette ménarchie, donc la puberté, et la ménopause. Et la microbiote vaginale suit énormément en composition et en contribution à la santé sexuelle et reproductive de la femme ces deux moments dont on sait énormément peu.
C'est assez fou. Alors justement, donc au niveau des résultats que vous trouvez, vous observez pas de différence entre les microbiotes des deux groupes. Par contre, vous observez un signalement plus élevé d'infections fongiques, donc des mycoses chez les utilisatrices de coupes menstruelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc est-ce que ça veut dire que les coupes menstruelles provoquent des infections fongiques?
Pas du tout. Pas du tout. C'est extrêmement important que je dise ça, parce qu'on peut en fait signifier le contraire. On pourrait se dire que des femmes... Bon, Nos résultats montrent que dans le groupe des femmes qui utilisent davantage de coupes menstruelles, il y a eu plus d'infections fongiques diagnostiquées chez les médecins dans les derniers mois. Mais ça peut vouloir dire aussi que les femmes qui se regardent plus, donc qui sont plus conscientes de leur santé sexuelle et reproductive, et donc qui reportent plus, qui vont plus au médecin, sont aussi les femmes qui ont tendance à utiliser des coupes menstruelles. Ou ça pourrait dire aussi que les femmes qui ont souffert des infections fongiques dans le passé, ils ont donc une tendance à arrêter d'utiliser des tampons et commencer à utiliser des coupes menstruelles. Mais à nouveau, ça, en épidémiologie, c'est une étude pour dire, il faut qu'on regarde ça, on a commencé à gratter. Il faut vraiment prêter de l'attention et étudier quelles sont les modifications de l'environnement vaginal qui sont associées à la présence d'un tampon et ou à la présence d'une coupe menstruelle.
Donc ça fait partie des facteurs, vous l'avez dit, qui peuvent favoriser les infections fongiques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on les connaît? C'est une question qui est étudiée, ça?
Une microbiote vaginale en bonne santé a comme conséquence... Une microbiote vaginale qui colonise bien le vagin empêche l'établissement des infections fongiques et parasites et des infections et bactériennes aussi parasites. Par exemple, la vaginose bactérienne, c'est une condition, pas exactement la maladie, mais une condition dans laquelle des bactéries qui ne devraient pas se trouver là, et se trouvent dans le vagin, et ça modifie la quantité des sécrétions, ça modifie l'odeur des sécrétions vaginales, ça modifie aussi, ça gratte, c'est vraiment désagréable, mais en plus, ça modifie les taux de succès des fécondations in vitro. Ça veut dire qu'à nouveau, une microbiote vaginale saine assure contribue de façon très importante à une qualité dans la santé sexuelle et reproductive.
Alors, il y a quelques années, les tampons, il y avait eu un buzz autour des tampons sur la présence de pesticides dans les tampons. Est-ce que ça, vous l'avez observé dans le microbiote ou est-ce que...
Non, on n'a pas regardé la toxicologie associée aux tampons, ni aux composants des tampons, ni aux composants des coupes menstruelles.
Parmi ce que vous avez regardé, vous dites aussi que vous êtes intéressé au profil immunitaire des femmes et vous avez notamment, vous parlez des patrons d'expression des cytokines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Bon, les cytokines sont des petites molécules qui servent pour que les cellules se signalent entre elles la présence des risques immunitaires. C'est-à-dire une cellule qui a vu quelque chose de bizarre va libérer certains cytokines pour dire aux autres « Attention, regardez, il y a probablement quelque chose de louche ici ». Et donc, ce patron des cytokines, effectivement, est différent entre les femmes qui utilisent davantage les coupes menstruelles ou les tampons. Et ça veut dire, ça peut vouloir dire simplement refléter cette histoire passée d'infection fongique qui modifie l'état d'alerte basal du système immunitaire. Et ça, nous le regardons en mesurant les cytokines qui sont présentes dans le sang.
On comprend en vous écoutant que cette étude, en fait, elle ouvre des portes sur tout un tas d'autres études qu'il faudrait continuer. Est-ce que c'est déjà prévu ? Est-ce que vous avez, du coup, j'ai envie d'en arriver au financement. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'arriver avec ce genre de sujet et de trouver de l'argent pour les faire ?
Bon, je crois que, heureusement, il y a eu une prise de conscience. Il y a dans les grandes lignes des financements, par exemple de l'Union européenne, il y a des financements proposés pour ce qui s'appelle vieillir, donc l'âge. Et à nouveau, c'est deux grands points noirs sur lesquels il faut centrer la recherche autour de la santé sexuelle et reproductive, qui est le début sexuel autour de la ménarchie et puis la ménopause. Et je crois que heureusement. Et nous avons une fenêtre de sensibilisation dans les bailleurs qui pourrait nous permettre de faire de la recherche et probablement aussi d'apporter des solutions.
Un grand merci, c'était vraiment passionnant.
Le temps
est passé à une vitesse folle. J'espère qu'on vous recevra bientôt pour continuer d'aborder ce sujet.
Ça sera avec plaisir.
Voilà, finalement, parler foufoune, c'est super. on passe maintenant à notre séquence reportage, Aline, et je crois que tu changes un peu de sujet, justement.
Je change complètement de sujet aujourd'hui. On va au laboratoire, on va au CIRAD, au laboratoire BioWeb, pour biomasse, bois, énergie, bioproduits, en compagnie de François Pinta et Kevin Candelier, qui nous font visiter la plateforme Biomasse Énergie. Ils vont nous présenter certains procédés de transformation de la biomasse par pyrolyse, torréfaction, combustion ou encore gazéification. Des travaux qui permettent notamment de prévoir de futurs procédés industriels innovants de valorisation de la biomasse.
Bonjour, je suis François Pinta, je suis chercheur à l'unité BioWeb du CIRAD. BioWeb, ça veut dire biomasse, bois, énergie et bioproduits. Donc sur le campus Agropolis, on est sur la plateforme Biomasse Énergie qui comprend des pilotes de conversion du bois et de la biomasse en énergie utilisable. Alors je vais vous montrer l'unité de pyrolyse. Donc il s'agit d'un four cornu qui permet de réaliser une pyrolyse de bois ou de biomasse.
Qu'est-ce que c'est la pyrolyse ?
La pyrolyse consiste à chauffer la matière aux environs de 500 degrés pour produire un charbon. Alors, on travaille principalement sur deux axes, voire trois axes. Premier axe, c'est d'augmenter le rendement de conversion de la matière, qui permet d'utiliser moins de biomasse pour produire la même quantité de charbon. Le deuxième axe, c'est de caractériser les fumées de pyrolyse. Les caractériser, c'est les connaître dans leur composition en composés respectifs et de travailler à leur dépollution, notamment par incinération et récupération de la chaleur de la combustion des fumées.
Chuch, devant une grande caisse en bois qui fait peut-être pas loin de 2,50 m de haut sur 1,50 m de large, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors on a ici une unité pilote d'un séchoir. c'est un séchoir à mangue qui nécessite de la chaleur dans des conditions maîtrisées pour préserver la qualité des mangues séchées. Alors ce pilote, il est de notre unité partenaire et voisine de, qui est du CIRAD aussi, c'est l'unité Cali Sud, qui travaille sur la conversion, la transformation des aliments des pays du Sud. Alors nous, à BioWeb, on se focalise sur l'apport énergétique maîtrisé pour que ce séchage soit fait dans de bonnes conditions à partir de combustion de biomasse. Et donc c'est le réacteur qui se trouve derrière.
Donc je suis Kevin Candulet, donc moi je suis chercheur à l'unité de recherche BioWeb. Donc moi je travaille principalement sur la préservation, protection et durabilité des bois et des biomasses. Et donc je travaille aussi sur les modifications thermiques et thermochimiques justement pour soit rendre le matériau bois plus durable, soit pour densifier son contenu énergétique. Donc là c'est un peu le principe du pilote Vibrato, donc il y a un réacteur à lit vibrant de torréfaction. Donc là sur ce pilote là on peut voir sur la droite on a l'alimentation en biomasse, donc soit des copeaux, soit des sciures, soit enfin, principalement des résidus en fait, qui vont être alimentés par une vis sans fin à l'intérieur du four. Donc en fait c'est le gros bloc carré.
Ça chauffe à quelle température ça?
Donc là la torréfaction c'est le procédé thermique qui intervient en dessous de la carbonisation, donc on peut torréfier en une gamme de température entre 160 degrés et 250-260 degrés.
Et ça sert à quoi de torréfier du bois?
Donc là en fait torréfier du bois, on va modifier sa composition chimique et dans le thermomodifiant, on va augmenter sa densité énergétique. Donc en fait, on va le dégrader, donc l'alléger, tout en augmentant sa teneur en carbone. Donc on va lui conférer un pouvoir calorifique plus élevé pour une densité et une masse de bois plus faible. Donc là, en fait, dans le four, on va alimenter en biomasse. Le four est sur un plateau vibrant qui, en fonction de la fréquence de vibration, va nous permettre de faire varier le temps de cuisson. Et donc la biomasse va vibrer et passer tout à travers le four. Et à la sortie, on aura du bois ou une biomasse torréfiée avec un contenu énergétique beaucoup plus important qu'au départ. Donc là, en fait, c'est un procédé qui est similaire à tous ceux qu'on peut trouver sur la plateforme. Donc c'est des procédés semi-industriels qui sont équipés analytiquement pour diverses raisons. Donc là, pour le procédé Vibrato, en fait, on a tous les tuyaux que vous voyez. C'est des tuyaux qui permettent de récupérer tous les gaz qui sont issus à différentes étapes du procédé de torréfaction pour les analyser et voir justement s'il peut y avoir des composés volatiles toxiques. Donc en plus, donc d'une part pour les composés volatiles qui peuvent être toxiques, mais d'autre part ça peut nous permettre aussi d'identifier des voies de covalorisation où là on peut récupérer des molécules actives qui pourraient être intéressantes pour différents usages qui sont issus de la dégradation du bois.
Alors là nous, on est devant un équipement qui permet de gazéifier le bois ou la biomasse pour en faire un gaz de synthèse, ce qu'on appelle le syngaz, qui peut être utilisé dans un moteur à combustion interne et produire de l'électricité en site isolé. Cet équipement est composé pour une partie d'un réservoir de bois qui, par une vis sans fin, alimente le réacteur de gazification lui-même, qui convertit le bois en gaz. Ce gaz est ensuite passé à travers plusieurs filtres avant d'être envoyé dans le moteur, qui par sa propre aspiration, sa propre autonomie, son propre mouvement, aspire le gaz et alimente en énergie la génératrice qui produit l'électricité, qui peut être utilisée en site isolé, notamment dans des zones rurales en pays du Sud, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, etc.
Donc on produit du gaz source d'énergie à partir du bois, c'est ça ?
Tout à fait. Et sur cet aspect-là, le verrou technologique actuel, c'est d'arriver à obtenir un gaz très propre, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'encrassement du moteur et qu'on puisse tourner sur des milliers d'heures sans avoir de maintenance ou d'entretien lourd à réaliser. Et donc c'est l'objet de nos recherches ici dans l'équipe Biomasse Énergie de l'UR BioWeb du CIRAD.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Et on passe maintenant à notre invitée des dernières minutes. Vous la connaissez bien maintenant, c'est Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique de l'Université de Montpellier, qui est avec nous. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et donc cette semaine, nous parlons encore du Bar des Sciences. Et cette fois-ci, donc, le Bar des Sciences s'associe à un événement, la Semaine du Cerveau. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Eh bien oui, la Semaine du Cerveau, c'est un événement national d'abord et annuel. Donc toute cette semaine, en fait cette fameuse semaine dans laquelle s'inclut le Bar des Sciences, eh bien on va discuter cerveau un peu partout. D'abord partout en France, mais notamment à Montpellier, il y a plus d'une vingtaine d'événements qui sont prévus dans le cadre de cette Semaine du Cerveau, à retrouver d'ailleurs sur le site semaineducerveau.fr.
Super. Alors donc pour coller à cette semaine, vous avez choisi le thème du bien-être dans l'éducation. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce thème ? Pourquoi est-ce que c'était important de parler de ça ?
Eh bien parce qu'il est désormais avéré que les notions de qualité de vie, de bien-être, de bonheur apparaissent de plus en plus fréquemment en fait parmi les choix des citoyens dans de nombreux domaines. Mais dans le champ de l'éducation, ces notions qui sont vraiment très proches traduisent un même besoin, et c'est nouveau, celui d'épanouissement personnel et de réalisation de soi. Et aujourd'hui, le bien-être en éducation, c'est vraiment une valeur émergente qui occupe une place très très importante, non seulement dans les discours des parents et des élèves eux-mêmes, mais aussi parmi les projets académiques, les objectifs de pratique innovante des établissements et puis évidemment des enseignants, bien sûr. Donc c'est vraiment une valeur que l'on retrouve de plus en plus et on a eu envie d'en débattre avec des experts qui seront là.
Alors justement, donc vos experts, qui sont-ils cette fois-ci ?
Alors nous allons accueillir 4 intervenants. Tous, évidemment, comme d'habitude, c'est l'ADN du Bar des Sciences, tous pluridisciplinaires. Donc, nous allons accueillir Bénédicte Gendron. Elle est docteure en neuropsychopathie. Docteure en neuropsychopathologie, pardon. Professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Et elle a beaucoup de choses, évidemment, à nous dire sur ce thème. Ensuite, on a Nicolas Giraudot. Lui, il est praticien hospitalier au CHU de Montpellier, mais il est également président de la Fondation de l'Université de Montpellier et il est coordinateur de Montpellier Santé Orale. Alors la santé orale, ça participe au bien-être, d'où sa présence à ce Bar des Sciences. Ensuite, nous avons Agnès Perrin-Doucet. Elle est quand même directrice de la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Donc voilà, en toute logique, elle va avoir aussi énormément de choses à nous dire. Et enfin, Sabrina Suffrenne, docteure en neuropsychologie, et elle est attachée d'enseignement et de recherche en psychologie du développement à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Et donc, comme d'habitude, le public pourra poser ses questions, c'est bien ça ?
Exactement, le public est invité à nous rejoindre dès 20h30. Enfin, on ouvre les portes à 20h30, donc on leur conseille d'arriver 10 minutes pour bien choisir leur table. Et puis ensuite, la parole leur est donnée, bien sûr.
Alors, on rappelle les dates, donc c'est bien le 16 mars à 20h30 à la brasserie Le Dôme. On ne change rien, toujours la même. Hein.
On ne change rien, on ne change pas une équipe qui gagne.
un grand merci Agnès et on se retrouve donc le mois prochain pour annoncer le prochain Bar des Sciences.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.